VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Après le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire a été la cible d'une attaque djihadiste. Un commando armé faisant 16 morts dans la station balnéaire très populaire de Grand Bassam, le premier attentat de ce type dans le pays. L'attaque terroriste a été revendiquée dans la soirée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve vont se rendre demain à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Les États-Unis ont de leur côté condamné fermement les attaques terroristes de Grand Bassam et ont déclaré se tenir prêt à soutenir le gouvernement ivoirien dans son enquête sur cette attaque odieuse. Dans un communiqué dimanche du porte-parole du département d'État, John Kirby. Cela dit, la vie a repris son cours normal à Abidjan ce matin. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mme Odile Pouane. Elle est psychopédagogue de profession et personnalité de la société civile.
Oui, l'état d'esprit est très bon. Ce matin, nous avons vu des embouteillages partout et nous sommes tous au travail, la plupart. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en des situations pareilles. C'est le moral qui va montrer qu'on peut surmonter. L'événement est certes dramatique, mais comment on le vit et comment on surmonte cet événement en continuant la vie. Et c'est ce constat qu'on fait aujourd'hui. Un peuple qui a connu une rébellion, qui a connu la guerre, après des élections, 3000 morts, je pense que ce peuple est suffisamment aguerri pour que face à des événements, on puisse encore montrer notre capacité de résilience. C'est ça qui est important, de pouvoir faire face et de continuer la vie en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en prenant appui pour plus de sécurité peut-être.
Alors Madame Bois, il y a eu du sang, de grosses frayeurs à Bassam. Est-ce que ce qui se passe actuellement avec les Ivoiriens, c'est de l'insouciance ou le sentiment que l'État a tellement bien géré la crise que la confiance est revenue, que la sécurité est garantie et qu'on pense à autre chose?
Vous savez, le mode opératoire a dépassé tout le monde. Ils sont venus, comme on le dit, par voie maritime. Et puis vous voyez qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chacun. Surtout, vous avez vu que c'est vrai, peut-être qu'il y a eu une part, on nous expliquera, parce que les hôtels qui ont été attaqués, je pense que la sécurité, quand on regarde, devait être mieux garantie parce qu'il y avait beaucoup d'Européens et puis c'était en fin de semaine. Mais je pense que quand vous allez vers la plage, sur la plage, et qu'on vous dit, bon, le nombre de morts par rapport à la présence massive des personnes, je pense qu'on peut se dire qu'on a eu quand même beaucoup de chance.
Un jour après, peut-on dire que les Ivoiriens ont vaincu la peur et qu'ils ne se sont pas laissés distraire par cette attaque?
La peur, elle vit en chacun. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens ont quand même compris que le repli ou la fuite, ce n'est pas cela la solution. Mais c'est l'affrontement d'une situation, sa compréhension. Et on avait été averti. Vous savez, la période qu'il y a entre le moment où on vous dit on va vous attaquer, l'attente de cette attaque, et le moment où cela s'est passé, c'est comme si on se disait, ben, ils ont dit qu'ils vont attaquer. Bon, ils ont attaqué, on ne blesse pas la garde, mais on a compris que c'était de la lâcheté. Ils ont attaqué, bon, on fait avec. C'est comme si on vous disait, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Cette période est plus stressante que l'acte lui-même. Parce que là, vous vous sentez un peu quand même comme libéré. Oui, on vit avec, mais on surmonte et cela va montrer que le plus difficile dans cette situation-là, c'est l'impression d'insécurité que ça peut créer. Comme si on se disait qu'on était fragile, vulnérable à tout moment. Mais on va le surmonter comme on a surmonté les crises passées.
Odile Pouane, psychopédagogue de profession et personnalité de la société civile ivoirienne jointe à Abidjan. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a finalement confirmé le verdict des urnes en phase avec les tendances données par la CENA à la commission électorale et qui affichait un second tour entre Lionel Zinsou et Patrice Talon. Les précisions, Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Lionel Zinsou, arrivé en tête du premier tour du scrutin présidentiel, sera face à Patrice Talon, classé deuxième. Ces précisions ont été données ce dimanche par la Cour constitutionnelle qui aura pris son temps pour analyser les résultats et autres informations arrivées à son niveau. Théodore Olo, président de la Cour lors de la proclamation des résultats. La balle électorale est donc remise au centre pour une seconde manche qui opposera le 20 mars Lionel Zinsou à Patrice Talon. Les candidats ont juste 7 semaines pour convaincre. convaincre les électeurs. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, l'issue définitive du premier tour des législatives du 14 février dernier sera finalement connue ce lundi. La Cour constitutionnelle de transition fera sa délibération aujourd'hui même.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Guinée parmi les pays africains où il y a plus d'infections au virus de l'hépatite. Certains virus sont transmissibles par voie sexuelle et malgré les campagnes de sensibilisation et la gratuité des antirétroviraux, le taux de prévalence reste élevé selon une récente étude. Zakaria Camara nous appelle de Conakry.
Les virus de l'hépatite sont tout aussi dangereux que le VIH-Sida. La Guinée n'a aucun programme de lutte. Jusqu'à récemment, la maladie n'était pas reconnue comme un problème de santé publique. Les seules statistiques sont les résultats des analyses du Centre national de transfusion sanguine.
Il y a 2 ans, le mot hépatite n'existait pas dans les statistiques sanitaires de la République de Guinée. Il y a un monsieur qui avait fait des recherches. Il avait trouvé 14,65% du virus de l'hépatite B chez les donneurs de sang.
Le docteur Abdourahmane Douria Diallo est l'un des 2 spécialistes que compte la Guinée. Il est d'autant plus inquiet que les études classent son pays parmi les plus touchés.
Les statistiques africaines et internationales classent la Guinée 2e pays touché au monde ou en Afrique après l'Égypte. Les études faites par des Africains nous attribuent 5,5%. Tantôt 9%. Donc ce qui veut dire que la Guinée serait touchée.
La Guinée touchée, il y a donc danger, s'alarme l'enseignant-chercheur. Le président de SOS Hépatite Guinée soutient que le risque est grand, d'où l'urgence d'une prévention.
On a obligatoirement besoin de dépister les cas d'hépatite B et C au niveau du personnel de santé. Et j'insiste sur le cas des femmes enceintes et des hommes en tenue.
Les hépatites A, B et C existent en Guinée, mais tous les facteurs qui aggravent aussi face à ce problème de santé, l'ONG SOS Hépatite Guinée informe depuis quelques années pour améliorer le niveau de compréhension sur la maladie.
Quels sont ses objectifs spécifiques ? C'est de contribuer à l'amélioration du niveau de compétence du personnel de santé à tous les niveaux par la formation continue, de contribuer au diagnostic, à la prise en charge et vaccination des groupes à risque selon le protocole international en vigueur.
SOS Hépatite Guinée est une association du personnel de santé, mais aussi des personnes malades, des malades comme ce jeune marié.
J'ai trop souffert avant de connaître que j'ai la maladie de l'hépatite B. Mes études, ma famille et mon boulot sont perturbés. Ma femme m'a quitté parce qu'elle pense que je vais la contaminer du cancer du foie avant de mourir. Je n'ai pas d'argent ou soutien financier pour aller me soigner hors de la Guinée.
L'hépatite E touche 20 millions de personnes chaque année dans le monde et on estime à 2 milliards le nombre de personnes infectées par le virus de l'hépatite B. Et parmi les cas graves, 1 million meurt chaque année. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Human Rights Watch a appelé aujourd'hui l'Égypte à protéger la liberté d'expression et à annuler les peines de prison de 4 adolescents chrétiens coptes condamnés pour outrage à l'islam après avoir parodié dans une vidéo une scène de prière. Le 25 février, un tribunal correctionnel de Minya dans le centre du pays avait condamné 3 adolescents âgés de 15 à 17 ans à 5 ans de prison, tandis qu'un 4e âgé de 15 ans avait été condamné à l'enfermement dans un centre de détention pour mineurs pour une durée non déterminée. Après ce verdict, les jeunes adolescents n'ont pas été arrêtés. Des négociations indirectes entre le régime syrien et l'opposition s'ouvrent ce lundi à Genève pour tenter de mettre fin à une guerre qui entre dans sa 6e année. À la veille de ces pourparlers, les chefs de la diplomatie française et américaine ont lancé un appel au respect de la trêve sur le terrain et à l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées. Un accord sur la transition politique en Syrie est la mère de toutes les questions, a affirmé aujourd'hui l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie avant le début des discussions au Palais des Nations à Genève. Enfin, l'aviation turque a bombardé aujourd'hui des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak en riposte à un nouvel attentat suicide commis dimanche à Ankara qui a tué 36 personnes ainsi qu'un de ses auteurs a annoncé l'armée. Ces frappes menées par un total de 11 avions de combat ont visé notamment la zone de Kandil dans les montagnes de l'extrême nord de l'Irak. Et puis, 3 personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital portant le bilan de l'attentat à la voiture piégée à 37 morts, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Santé, Mehmet Mouzinoglou. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Bihan à ce micro. Le prochain journal vous sera présenté dans 50 minutes. Ce sera avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.